Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, et comme c'est le premier débat nocté de 2010, oui. Forcément, et ben bonne année à tous. Aujourd'hui, j'ai avec moi Pof, comme d'habitude.
Ouais, bah oui.
Et qui va se rapprocher du micro.
Si je viens pas, il y a personne. Donc.
Voilà, c'est ça, ouais. Mais et ce qui va te donner tort, c'est que ce soir, nous avons aussi...
Choupette.
Ouais, bonsoir Choupette.
Bonsoir Choupette.
Non, oh, putain, mais tu vas pas la faire à chaque fois qu'on fait une émission, enfin. Si, d'accord, elle nous fait un grand sourire, style, elle est super fière. Aujourd'hui, nous allons parler de science-fiction. Alors, j'ai envie de dire, oui, bon, peut-être, science-fiction dans le débat d'octet. Qu'est-ce que ça vient foutre là? Eh bien, tout simplement parce qu'on va se poser la question ce soir. La science-fiction, est-ce que ça donne l'inspiration des nouvelles technologies, ou est-ce que c'est une anticipation sur les nouvelles technologies, ou est-ce que c'est une espèce de grande lubie qui nous fait miroiter des choses qu'on n'aura jamais, ou qui nous fait miroiter des choses qui, en fait, dans la réalité, sont des grosses conneries. Alors... Dans la première partie, ça va être évidemment inspiration ou anticipation. Alors, on a tous vu, par exemple, dans les films de science-fiction, depuis assez longtemps, des ordinateurs tactiles.
Ouais.
Voilà. Et... Alors, ça commence à arriver.
Oui, mais ils sont moins bien.
Alors, justement...
J'ai un exemple, un film qui m'avait bien plu, d'ailleurs, qui s'appelait iRobots. Où ils avaient un petit ordinateur justement, mais qui était en fait en vert, il me semble. C'est-à-dire qu'en fait, t'avais juste ce qui était en gros en couleur, et t'avais un fond transparent, tu voyais à travers.
Oui, bah tu
et
sais
c'était
que
c'était pas vraiment tactile parce que tu faisais juste devant l'ordinateur.
Et au CES, tu sais justement que ils ont fait un écran qui est transparent.
C'est marrant parce qu'on en parlait en 2009, c'était il y a bien longtemps. Mais...
Voilà, c'est ça. justement au CES, ils ont présenté cet écran qui est transparent et qui devient opaque derrière les fenêtres. En fait.
Opaque derrière les fenêtres.
Oui, c'est-à-dire que tu as une fenêtre d'ouverte.
Ah oui, et
d'accord.
Lui, en fait, il...
Et derrière, c'est comme, par exemple, si tu vas voir un blanc, du blanc, tout simplement, ça te fera pas du transparent, ça te fera du blanc. Et tu verras pas ta main qui passe derrière la fenêtre.
Ah, c'est bien.
Par contre, tout le reste, en fait, ton bureau, il est transparent, mais pas les fenêtres
c'est
qui sont par-dessus.
J'ai absolument pas vu passer ça, pourtant j'ai regardé des trucs sur le CES.
Si, non, sérieusement.
J'ai vu la plus grosse télé du monde.
Elle fait combien de pouces?
Je dirais qu'elle fait la moitié de ton mur là.
Et justement d'ailleurs pour ce qui est des écrans géants, prenons par exemple 1984. Ou pour ceux qui ne connaîtraient pas 1984, la pub d'Apple qui reprend le thème de 1984, où on voit la personne qui lance
le...
Et c'est un écran absolument gigantesque. Et bien, on commence à... Enfin, on les avait dans les grandes manifestations, les matchs de foot, machin. On commence à avoir des écrans qui commencent à taquiner ce genre d'écran, mais chez nous.
Ouais, mais dans les matchs de foot, les plateaux de télé et tout, c'est pas plutôt plusieurs écrans?
En fait, oui, c'est plusieurs écrans mis les uns à côté des autres, si tu veux.
Et là, c'est pas justement le fait d'avoir un seul et même écran?
Là, c'est un seul et même écran maintenant, ouais. Oui, c'est...
Donc, ce qui, à mon avis, doit être techniquement plus dur, mais je sais pas si c'est... Bah, autant en mettre plusieurs, non? Enfin, je sais pas quel est leur intérêt d'en mettre qu'un seul.
Bah, l'intérêt d'en mettre qu'un seul, c'est que chez toi, c'est quand même plus simple. Là, je parlais de chez nous, tu vois, ça commence à arriver chez nous, pas dans les matchs de foot, on s'en fout.
Oui, non, mais ils auraient pu faire une télé où, en fait, t'as plusieurs écrans et eux, ils se démerdent derrière, à l'intérieur, pour...
C'est ce qu'on faisait jusqu'à présent. Un autre truc qu'on a beaucoup vu et qui était un peu le leitmotiv dans tous les films ou tous les romans ou tous les autres médias de science-fiction, c'est la fameuse voiture électrique. Et là, on va être honnête, 2010, c'est l'année de la voiture électrique.
Oui, c'est-à-dire qu'on en avait vu avant, et puis là au CES encore, on en a vu une voiture électrique. Il y en avait une qui était jolie, parce que d'habitude, on a des voitures électriques, mais qui sont moches.
Mais je l'ai...
qui ressemblent à des pots de yaourt, en fait. avec des roues, des voitures électriques. Puis là, ça fait une vraie voiture.
Ah, tu veux dire les voitures électriques de la voirie avec le petit gyrophare qui... Même pendant un temps, elles faisaient bip 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 tout le temps pour qu'on les entende.
Même, t'as des voitures, il y a des cabriolets électriques par exemple, mais ils font vraiment peau de yaourt dans le sens où ils sont tout petits et ils se font plastique parce que sinon c'est trop lourd, j'imagine.
Attends, tu te moques de moi là. Attends, tu es en train de me dire que ceux qui faisaient style roadster, ceux qui font style roadster, c'est des pots de yaourt. T'as vu la Tesla?
Non.
La Tesla, je suis sûr que tu connais même pas ce que c'est.
Non.
Je sais plus si c'est les fondateurs
Tesla,
de Facebook ou les fondateurs de Google.
Rapport avec l'électricité.
Si, mais c'est pas ça.
Qui avait fait un truc avec des éclairs ou je sais pas quoi. Oui, vas-y, dis-moi alors, c'est quoi? J'ai compris Facebook dans ta phrase, mais
non, mais c'est les fondateurs de Google ou les fondateurs de Facebook, je ne sais plus, mais
alors
je crois
si
que c'est
les fondateurs, c'est Google. Parce
je crois que c'est les fondateurs,
c'est
les fondateurs de Google qui ont travaillé sur un projet qui s'appelle Tesla Motors.
Ouais.
Et ils en sont à leur deuxième voiture électrique,
oui.
Dont la première qui est d'ailleurs, parce qu'elle est toujours commercialisée, un roadster électrique qui
oui,
a
un
des
roadster, je sais pas ce que c'est.
Un roadster, c'est une voiture biplace sportive, si tu veux.
Oui, je vois.
Je sais pas, par exemple, tu prends la Z3 ou la Z4
de
BMW, c'est un roadster, si tu veux. C'est
tout à fait. BMW, je comprends. Z3, Z4, non.
Voilà, une Viper, ça te dit quelque chose?
C'est vaguement. J'ai dû avoir
une Lotus Elise.
Moyen.
Bon, tu feras un Google Image.
Donne-moi les noms de voitures dans GTA, je connaîtrais.
Mais justement, celle qui est bleue avec des
non,
avec
la
des
Super
lignes.
GT.
Non, pas celle-là, non, l'autre. La Banshee.
Voilà. Non, celle-là, je la connais pas.
Ah putain, même dans GTA, il connaît pas les voitures. C'est une catastrophe. Bon, bref.
Moi, je suis une fille en fait, mais avec un pénis.
Excusez-moi, j'ai un petit truc à faire là. Voilà. Je sais plus où j'en étais.
Oui,
si. Ils ont fait une voiture électrique qui a des performances de sportive, avec des grosses accélérations, même des plus grosses accélérations que sur des voitures sportives.
Il y a un putain de moteur alors en fait.
Bah évidemment. Bon, elle n'est pas donnée.
Ça consomme un peu, non?
Qu'est-ce qu'il y a?
Ça consomme un peu. Je veux dire en électricité.
Bah oui, en électricité, forcément, oui, ça consomme. Parce que si
ça consomme plus qu'une voiture
électrique. Le mouvement perpétuel POF n'a pas encore été inventé.
Non,
justement, on en parlera dans la troisième partie, si tu veux.
Est-ce que ça consomme plus qu'une voiture électrique standard fabriquée par eux?
Bah je sais pas, franchement.
Parce que
honnêtement,
d'habitude, les voitures électriques en général n'ont pas plus de 60-90 pour les...
Je crois qu'elle a 250 ou 300 km d'autonomie.
Ouais,
ce qui est quand même plus que correct.
Ouais.
Et donc, au niveau des performances, elle a plus de couple au démarrage qu'une voiture sportive. Parce qu'il faut savoir qu'un moteur thermique, c'est assez limité au niveau du couple. Un moteur électrique, le couple, c'est ce qui va donner l'accélération, si tu veux,
ouais,
dans une voiture.
Je sais ce que c'est ça.
Ça leur permet, avec le moteur électrique, d'avoir une accélération de grand malade. Si tu veux. Donc on se retrouve à avoir des voitures électriques qui ne sont plus justement les pots de yaourt que tu décrivais tout à l'heure.
Ouais.
Qui sont des vraies voitures.
Non, moi je te parle au niveau esthétique surtout.
Au niveau esthétique aussi. Il n'y a qu'à voir les concept cars qui sont présentés. Bon, c'est des concept cars encore une fois. Donc c'est pas sûr qu'ils arriveront dans cet état-là en fin de production. Mais la voiture électrique, ce n'est plus un truc d'écolo. C'est devenu un truc mode. C'est devenu même la nouvelle mode, on va dire, des constructeurs automobiles. Bon, alors, vu que moi, j'avais préparé ces deux sujets-là, j'aimerais bien que vous me donniez des exemples aussi de choses qu'on a vues dans les films de science-fiction ou dans les romans de science-fiction et qui commencent à arriver à l'heure actuelle.
Bah, les robots.
Ah bah, attendez, justement, je vais tourner le micro vers Choupette.
Ouais.
Oui, mais tu te rapproches du micro et tu parles fort.
Bah, il y a les robots.
Oui, c'est-à-dire. Développe, parce que c'est le débat d'octet, on développe, on donne des arguments, tout ça, c'est pas comme la chronique tech.
Bah, au départ, si on prend super ancien, on va dire Léonard de Vinci, je pense que c'est un des premiers qui a dessiné les premiers prototypes de machines mécaniques avancées. Il a dessiné quoi? Ben, l'hélicoptère, un prototype de char, et déjà ce qu'on pourrait voir comme une mécanique qui pourrait se mouvoir par elle-même, ce qu'on peut penser au départ, c'est un robot.
Oui.
Si on voit ces dernières années, bon, il y a tout ce qui est les robots ménagers, donc bon, qui ne sont pas des robots humanoïdes, on va dire. Mais maintenant, ce qui arrive au Japon, notamment il y a eu pas mal de reportages ces derniers temps, ce sont des robots qui ont l'apparence d'un être humain, qui commencent à remplir des fonctions...
ce qu'on appelle des androïdes.
Les androïdes, exactement. Mais qui commencent à remplir des fonctions, on va dire, intéressantes. Comme réagir en interactivité avec une parole humaine, savoir à peu près se déplacer tout seul, savoir choisir une parole ou quelque chose à faire en fonction de ce qu'on lui a demandé. Donc réellement, je pense que c'est maintenant qu'on voit arriver le futur de tout ce qui est robot, et avec tout ce que nous a averti la science-fiction, comme...
non, mais c'est la science-fiction occidentale, parce que la science-fiction orientale, les robots sont plutôt gentils. Ils sont pas là pour détruire le monde, généralement. Mais
C'est pas ça, c'est que les Japonais, ils ont une conception comme quoi toute chose a une âme. Donc les objets ou les humains, ils ont la même âme, donc tout le monde sur un pied d'égalité. Ce qui est pas dans notre conception à nous.
Pas vraiment.
Que nous, nous pensons que ce
sont
les
humains
d'abord.
Déjà, on a du mal à voir les autres humains sur un pied d'égalité à la base, hein, donc...
Mais je pense que dans les 20 prochaines années, on va voir arriver sur le marché donc des robots qui vont remplir des tas de fonctions, comme genre le ménage, la cuisine, le soin des personnes âgées, les soins médicaux, les opérations, etc. Et que au fur et à mesure...
Oula, les opérations, moi j'ai peur de voir ce que ça peut donner un robot qui d'un seul coup, qui évidemment tournera sous Windows, parce qu'ils auront toujours la suprématie. Le robot qui fait un écran bleu en plein milieu d'une opération du cœur, hein, j'ai envie de dire.
Je pense que ça existe déjà.
C'est parce qu'il fait comme pour les disques durs où il range les têtes de lecture, là il range le scalpel.
Il y a beaucoup de robots de robots qui servent déjà à assister dans les opérations, mais peut-être qu'on pense qu'au fur et à mesure des années, ben, ce sera le robot qui sera plus fiable que l'homme pour opérer.
D'accord. Est-ce que tu avais d'autres idées de choses qui... Enfin, déjà, non, pour revenir sur les robots, un petit dernier truc, il faut rappeler quand même que le terme robot qu'on utilise à l'heure actuelle dans la technologie, c'est un terme qui a été inventé
par Asimov
dans la science-fiction. Donc ça, c'est déjà effectivement l'arrivée de la science-fiction dans la réalité. Je vais remettre le micro au milieu, parce que sinon on n'entend plus POF, c'est un peu gênant. Donc on n'a pas l'habitude de faire du podcast à 3, vous voyez, c'est un peu comme d'autres choses, j'ai pas l'habitude de les faire à 3. Je préfère les faire à Montpellier en général.
On peut tester ce soir si tu veux.
Non. Revenons, POF, est-ce que tu avais un exemple, toi, vu que Choupette a assez parlé ?
J'en ai pas en tête, là. C'est-à-dire, depuis tout à l'heure je réfléchis, à la limite je pourrais te dire qu'on voit de plus en plus de choses...
De vaisseaux spatiaux. Non, pas de
vaisseaux spatiaux, mais qu'on voit de plus en plus les communications comme on pourrait les voir dans des films de science-fiction.
C'est-à-dire
la visiophonie qui se développe, comme disait le numéro 2 d'Orange.
J'ai envie de dire, la visiophonie, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, dans la partie lubie, si tu veux, parce qu'on n'a pas le même avis là-dessus.
Effectivement, c'est marqué ici.
Oui, voilà. Non, par contre, c'est vrai qu'au niveau des technologies de communication, quand je vois mon iPhone, j'ai l'impression d'avoir vu les communicateurs, si tu veux, ou je sais plus comment ils appelaient ça.
De Star Trek.
Star Trek, là, carrément, faut que tu te dises qu'ils avaient sorti le téléphone de Motorola qui était le premier à clapper. Je me souviens plus de son nom. C'était justement fait depuis le communicateur de Star Trek.
Donc
c'est un exemple encore plus ancien de technologie qui est inspirée par la science-fiction.
Non, mais par exemple, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a aussi les montres qui font téléphone, etc. Ça, c'est genre la montre de James Bond un peu qui fait.
Oui, mais justement, la question que je me pose, qui peut se poser, c'est est-ce que ça rentre plutôt dans les lubies ou dans les réels
Je sais pas parce qu'une montre, non, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, un téléphone, justement, qui fait de plus en plus de choses, comme on voit les téléphones de multifonction qu'ils ont quand ils vont sur d'autres planètes. C'est genre, ils font « Oh, je téléphone à mon ami qui est dans la fusée et puis en même temps, je regarde le pH du sol. »
Oui, voilà. En même temps, on pourrait avoir ça avec l'iPhone, avec un accessoire à l'heure actuelle.
Tu me diras, c'est super de mesurer le pH du sol. Hein. Là,
si t'es sur une autre planète, c'est pour savoir si tu peux aller en chaussettes. Parce que sinon, tes chaussettes fondent. Tu vois, c'est super important, le pH du sol.
Exactement.
Oui, enfin, tu vois, moi, j'aurais... Pensez à la qualité d'abord, de l'air. Avant d'y aller, la qualité de l'air, tu vois.
Oui, c'est pas plus con. Hein, oui, mais à mon avis, t'as envoyé une sonde avant et tout. Bon, enfin bref, la question quand même de cette première partie, qui va être la question de débat, c'est d'après vous, est-ce que la science-fiction, ça donne l'inspiration aux technologies qu'on développe et qu'on voit apparaître à l'heure actuelle et qui continueront à apparaître, ou est-ce que au contraire c'est une anticipation, est-ce que c'était des purs génies et qu'ils ont du coup déterminé à l'avance les besoins qu'on aurait dans le futur?
Par exemple, on va prendre Da Vinci, hein,
T'es à fond sur Da Vinci aujourd'hui.
Oui, c'est le plus ancien. T'en prendrais un autre, on prendrait Jules Verne. Est-ce que ton avis à l'époque de Vinci, est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait présager qu'on aurait fait des hélicoptères?
Non, mais Da Vinci, c'est un génie, si tu veux. Là-dessus, tout le monde s'accorde. Jules Verne, c'est un peu différent. C'est plus un romancier, donc déjà, d'accord.
À cette époque-là, ils auraient pensé à envoyer quelqu'un sur la Lune.
Bah, vraisemblablement, oui, parce qu'il y a, il y a donc. Merde, c'est quoi déjà le titre pour, pour les romans de Jules Verne qui parlent de la Lune? Il y a le deuxième qui est Autour de la Lune, mais le premier, je me rappelle plus.
Je crois que c'est.
C'est pas On a marché sur la Lune, ça c'est Tintin, ça c'est autre chose. Tintin qui pourrait, pour cette BD en particulier, rentrer dans la science-fiction.
Oui, mais enfin Jules Verne, de toute façon.
Objectif
c'était...
Lune, ça y est, j'ai retrouvé.
C'était un précurseur.
Non, ça c'est Objectif Lune, c'est aussi Tintin.
C'est
merde.
Dans son époque, ne pouvait permettre de dire qu'ils auraient pu aller dans l'espace.
Et les sous-marins.
Qu'ils seraient allés, oui, ou sous-marins, pareil, avec le Nautilus. Rien ne pouvait le permettre.
Et puis
à Montgolfier,
ah non, ça existe.
Donc pour toi, la science-fiction. Parce que Léonard de Vinci ne rentre pas dans la science-fiction, si tu veux, parce que c'est pas un romancier.
Mais pour moi, ce sont des, enfin, ces gens-là, ce sont des visionnaires qui se sont dit peut-être un jour on arrivera à faire ça. Comme aujourd'hui, les gens qui font de la science-fiction, ils se disent peut-être un jour on voyagera dans l'espace-temps, on habitera sur d'autres planètes, etc. Après, les constructeurs ou les ingénieurs.
De la Terre à la Lune, et on remercie iTruc pour le titre.
Notre seul auditeur.
Ouais, merci à toi, iTruc.
Non, mais c'est surtout que. Ah, ça y est, j'ai perdu le fil.
Oui,
que les ingénieurs, à mon avis, bon, ils ont peut-être des lignes directrices, genre potentiellement, ça serait chouette qu'un jour on marche sur une autre planète, et ils doivent se dire plus concrètement, eh ben, qu'est-ce qu'il faudrait que j'invente pour que ce soit possible.
Oui, mais revenons sur Terre, si j'ose dire, et parlons plutôt de notre quotidien, si tu veux, parce que aller sur la Lune, ça a touché une poignée d'hommes, si
on
tu veux.
On va prendre Asimov. Asimov, qui était aussi un très grand scientifique. Je pense que pour lui, science-fiction et aussi construction, tout ce qui était robotique, parce que c'est lui qui a inventé le terme, rappelons-le.
Et les trois lois d'Asimov.
Et les trois lois. Mais bon, ça, les robots qui soient soumis aux trois lois, pour l'instant, c'est pas le cas, parce qu'il n'y a pas besoin.
On a de la marge.
Voilà, exactement. Mais je pense que lui, c'était très très lié. Il avait envie peut-être de construire quelque chose, il ne pouvait pas y arriver tout de suite, mais c'était quand même quelque chose qui le motivait, qui guidait ses pensées, qui guidait tout ce qu'il faisait.
D'accord. Pof.
Oui, alors la question c'était anticipation
ou inspiration.
Ou inspiration.
C'est-à-dire est-ce que c'est l'anticipation
de
ce qu'on va avoir? Les deux. Mais oui, c'est bien. C'est évidemment, c'est les deux. C'est comme dans toute. Je vais t'expliquer un truc. Je sais, t'as pas encore ton bac, mais ça va venir. Quand t'auras le truc de philosophie, à chaque fois qu'on te posera une question,
c'est les deux.
C'est toujours les deux.
C'est les deux.
Première partie argumentée pour, deuxième partie argumentée contre, et ensuite conclusion.
Conclusion.
D'accord.
Bah non, troisième partie. Et si on allait plus loin? Et après, dernière conclusion, tu fais pas trois parties, t'as qu'un tiers des points.
C'est pas faux.
Ah, moi je fais toujours ça en 14 parties, c'est peut-être pour ça que j'ai pas encore mon bac.
T'auras pas les points non plus. Oui.
Donc argumente, je t'en prie.
Mais ça vient, je pense, forcément de l'anticipation, parce que pour qu'il y ait l'inspiration, de toute façon, il faut que quelqu'un ait anticipé avant.
Pas forcément, ça peut être quelqu'un qui soit tombé juste, tu vois, sans non plus. Prenons par exemple.
Un semi-conducteur.
Quoi?
C'est arrivé par hasard. On a réussi, paf, un transistor. Et c'était une erreur.
Oui, non, ça c'est autre chose. Ça c'est comment on invente les choses. C'est un peu différent. Non, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce que pour vous, c'est dans la science-fiction, on peut trouver des gens qui sont tombés juste.
D'accord. Sans faire exprès.
Sans, non, et qu'ensuite, on ait inventé la même chose sans avoir eu à l'esprit l'anticipation du romancier. D'accord. Ou est-ce que on est tout le temps dans l'inspiration, ou c'est toujours la science-fiction qui va donner les lignes directrices ensuite à l'engineering, si tu veux.
Ben, prenons un exemple. Oui. Les gens, ils ont toujours rêvé. Il y a toujours ce vieux rêve de l'homme de voler.
Oui.
Bon, il y a eu le gars qui a décidé qu'en sautant et en battant des bras, ça marcherait.
Bon, il a vite compris que non.
Ça a pas très bien marché.
Enfin, non, ses potes ont compris que non, lui.
Ouais, lui, il a pas compris. Enfin, il a pas
il a compris sur la fin, mais bon, après, il a pas pu le dire, quoi.
Après, il y a toujours la réflexion mécanique qui s'est dit, bon, on va peut-être essayer de faire quelque chose, un parachute, voilà, ça c'est venu petit à petit. Est-ce que c'était une question d'inspiration? Je sais pas, je pense qu'à ce niveau-là, c'est plutôt une question de survie. Je vais sauter, est-ce que je vais réussir à m'en sortir quand j'arriverai en bas, quoi?
c'est
une question vitale. Est-ce que j'ai le temps de profiter de mon vol, au moins 3 secondes avant de m'écraser?
Donc en fait, si je résume, en fait, pour toi, le cheminement de l'humanité dans les innovations, ça serait plutôt un rêve de l'homme qui peut être partagé ou qui peut être relativement restreint à un groupe, qui ensuite donne l'inspiration au romancier. D'accord? Et que c'est et que ce rêve qui a été cristallisé à la base une première fois par les romanciers, ensuite est cristallisé et rendu réel par la technologie lorsque les technologies sont possibles.
C'est presque ça, en fait, cheminement. Pour moi, en fait, les rêves sont à la fois la source de l'inspiration et à la fois la source de l'innovation. Mais les trois sont intimement liés. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième, bah, quoi.
Ouais, justement, c'est un peu ça. C'est peut-être parce que on essaye d'inventer ce dont on a rêvé et ce qui nous a fait rêver dans des livres, etc. C'est-à-dire ce qu'on voit dans la science-fiction, on essaye de l'inventer après. C'est-à-dire que ce soit imaginé ou anticipé par l'auteur. De toute façon, après, ça vient plus ou moins de là parce que. Parce qu'on a envie de reproduire ce qui n'est pas réel, en fait. On a envie de le reproduire dans le réel.
Oui, ou souvent, pour les inventeurs, ils ont une situation auxquelles ils sont confrontés qui leur plaît pas, pour laquelle ils galèrent, et ils ont envie que ça se passe mieux. Sans que ça soit réellement un rêve, c'est surtout que ben, c'est une difficulté qu'ils ont affrontée et auxquelles ils veulent remédier.
D'accord. Écoutez, vu qu'on s'est à peu près mis d'accord sur sur l'influence de la science-fiction sur les technologies de nos jours, faut savoir quand même que le chemin n'est pas toujours aussi simple que le rêve, la romance et la réalisation. Il y a aussi des fois le rêve, la romance, la réalisation, et finalement, en fait, c'est de la merde, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les plus gros flops. Qu'on ait pu avoir une fois qu'on a eu la chose en face, on s'est aperçu que ce n'était pas aussi bien que dans les romans ou pas aussi bien que dans nos pensées. Et ça sera justement la partie 2 du débat d'octet. On se retrouve donc juste après une petite pause musicale, et c'est Bye Bye de Yves Alain.
Le débat d'octet sera de retour sur Pod Radio après cette petite pause musicale.
Faire le tour de la terre, quitter ses chemins austères.